En coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de la communication de Jean-Noël Robert de l'École pratique des hautes études et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres intitulée « Les études bouddhiques, un axe durable de la coopération franco-japonaise ». Retrouvons Jean-Noël Robert en grande salle des séances de l'Institut de France.
Les études bouddhiques, un axe durable de la coopération franco-japonaise. À mi-chemin de cette journée de célébration du 150e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et commerciales entre le Japon et la France, se met un agréable devoir de remercier ceux qui ont contribué à l'organisation de cette réunion et ont bien voulu l'honorer de leur présence et de leur participation, tous ceux qui ont pris la parole ce matin et ceux qui la prendront cet après-midi. Je voudrais aussi remercier tout spécialement le secrétaire général de notre académie, M. Hervé Danesi, qui a été l'intellect agent permettant de faire passer notre rencontre du plan des idées au monde phénoménal. Il serait illusoire, dans le peu de temps qui me reste imparti, de tenter ne serait-ce que de résumer l'essentiel du thème que je m'étais proposé de traiter. Je voudrais cependant profiter de la précieuse occasion qui nous est donnée aujourd'hui pour esquisser une sorte de bilan symbolique de ces 150 ans de relations franco-japonaises dans le domaine des études bouddhiques, qui m'intéresse plus spécialement. Monsieur le secrétaire perpétuel nous rappelait tout à l'heure que la première mention du Japon faite par un auteur français concernait l'univers religieux de ce pays. On ne sera donc pas surpris de constater que la coopération intellectuelle qui se forma très tôt après l'ouverture du Japon à l'Occident porta quelques-uns de ses plus beaux fruits dans le vaste domaine du bouddhisme. Cette ouverture ne se fit certes pas dans la sérénité. Le Japon ne pouvait que se sentir menacé par la brusquerie avec laquelle elle lui fut imposée par les États-Unis et l'Europe. Et ce sentiment de menace venait renforcer, dans les milieux bouddhiques, une remise en question qui était allée grandissant tout au long de l'époque d'Edo, pour atteindre la dimension d'une crise peu de temps après la restauration de Meiji. Il se pourrait fort, et des indices assez probants plaident en ce sens, qu'il faille aller chercher dans la transmission du christianisme au Japon au XVIe siècle, et dans le violent rejet qu'il provoqua de la part du pouvoir et de penseurs politiques au XVIIe siècle, les causes premières de cette crise. Car en prenant conscience du danger que représentait à leurs yeux l'intrusion dans l'empire d'une religion étrangère, qui entendait apporter une morale, une vision du monde, une métaphysique et une théologie si radicalement différentes de ce qui, depuis des siècles, constituait l'univers japonais, bon nombre de ces penseurs se rappelèrent que le bouddhisme aussi, après tout, était une doctrine venue d'ailleurs, née dans l'Inde lointaine et profondément remaniée en Chine, d'où les Japonais avaient peu à peu rapporté, à mesure qu'ils s'élaboraient, l'immense corpus scripturaire conservé tel quel en langue chinoise, sans qu'il y eût jamais de tentative de traduction d'ensemble en japonais. La séparation des deux langues écrites, la chinoise et la japonaise, avec la première qui notait les écritures bouddhiques, les commentaires écrits par les religieux chinois, puis japonais, lesquels se servaient de cette langue comme nos clercs médiévaux du latin, et la seconde utilisée pour la riche littérature de contes édifiants, de sermons, de poésie, aurait sans doute pu conduire à un conflit tel qu'on en connut à l'époque où les littératures nationales européennes s'élaboraient, la langue autochtone visant à supplanter la langue allogène. Cela ne s'était pas produit, essentiellement grâce à l'équilibre qui s'était habilement constitué au cours des siècles entre les deux dimensions de la religiosité japonaise. Les divinités japonaises en étaient venues à être considérées comme des émanations à usage local, pour ainsi dire, des grands bouddhas et bodhisattvas qui demeuraient en des plans d'existence inconcevables. La langue japonaise elle-même assurait un rôle salvifique aussi grand que la méditation bouddhique, de par son emploi dans la poésie, qui représentait une voie de libération. Grâce à ces idées regroupées sous l'appellation de « traces descendues d'une base originelle », les traces étant les dieux japonais et la base originelle les bouddhas et bodhisattvas indiens, le sentiment d'aliénation qu'aurait pu susciter l'adhésion aux doctrines bouddhiques s'était estompé, malgré les indéniables résistances que l'on avait vues au tout début de leur arrivée dans l'archipel. Toute cette belle construction commence à être ébranlée avec la réaction antichrétienne du XVIIe siècle, qui devient finalement une réaction anti-bouddhique. En voulant élaborer une idéologie de la japonité, les tenants de ce que l'on a appelé les études nationales commencèrent à éliminer tout ce qui était héritage manifeste des cultures continentales, qu'elles fussent chinoises ou indiennes, pour faire ressortir en une pureté entièrement reconstituée des traditions révélatrices de l'essence nationale. Tout ne fut pas négatif dans ce mouvement. La philologie y gagna certainement beaucoup, car les plus grands érudits s'appliquèrent à remettre à l'honneur les plus anciens monuments de la langue japonaise, consignés dans une forme d'écriture chinoise dont on s'évertua à restaurer les antiques lectures. Tous les linguistes modernes travaillent sur les matériaux patiemment mis à notre disposition par ces savants, et l'on doit au moins leur reconnaître ce mérite. Mais le bouddhisme japonais subit des assauts répétés, qui à la longue finirent par se faire sentir. Je ne prétendrai certes pas qu'intellectuellement, le bouddhisme de la fin d'Edo était en décadence. Il profita au contraire pleinement de la grande vague d'érudition qui marque toute l'époque, dans les études nationales comme dans les études chinoises. On trouve chez les grands religieux d'alors un appétit encyclopédique qui se déploie dans l'étude des textes, des doctrines, de l'histoire. Et j'avoue m'être demandé plus d'une fois jusqu'où serait allée la recherche et la réflexion menée par ces moines si la rencontre avec l'Occident n'était venue bouleverser tous les paramètres. Car l'ouverture du Japon fut tout d'abord une catastrophe pour le bouddhisme de l'archipel. Elle provoqua la confluence de forces hétérogènes, voire antagonistes, qui cependant se rencontrèrent pour affaiblir ce qui avait été pendant 13 siècles la colonne et le soutien de la vision du monde japonaise, et faillirent le mettre à bas, si l'intrusion qui le menaçait n'avait en même temps apporté les germes de sa restauration. En cette seconde moitié du XIXe siècle, en effet, l'Occident, qu'il soit européen ou américain, signifiait aussi chrétienté en Extrême-Orient. Dans l'examen de conscience nationale qui caractérisa la réaction des milieux politiques et intellectuels japonais à l'entrée en force des puissances, certains en vinrent à considérer que le christianisme était un élément fondamental dans la constitution de la supériorité scientifique et technique de l'Ouest, laquelle était bien sûr à la base de leur prépondérance politique, voire impérialiste. Ce raisonnement semblait d'autant plus fondé que la liberté d'activité des missionnaires occidentaux au Japon était l'une des exigences occidentales. Les premiers arrivèrent d'ailleurs dans les ports, désormais ouverts, dès l'année 1859. Il n'y avait qu'un pas à faire pour estimer que la conversion au christianisme, protestant de préférence, et l'adoption de la langue anglaise étaient les étapes indispensables qui permettraient au Japon d'accéder rapidement et sur un pied d'égalité au concert des nations. On vit de très bons esprits soutenir cette idée. Certains d'entre eux n'étaient pas même chrétiens, mais ils entendaient renouveler le pari de Pascal dans le domaine politique. Si d'autres voulaient lier l'avenir du Japon au confucianisme, et surtout au shintoïsme, qui allait au mieux bénéficier de la rencontre du mouvement essentialiste d'Edo et des conceptions occidentales sur l'État et la religion d'État, on peut dire que la plupart s'accordaient à voir dans le bouddhisme traditionnel l'origine de tous les maux du Japon. Il est piquant, si l'on me permet ce rapide aparté, de voir de nos jours, à l'âge des études culturelles, postcolonial et postmoderniste, ressurgir au Japon et hors du Japon un courant universitaire qui reprend cette attitude critique en l'ajustant aux nouvelles préoccupations à la mode. Mais pour revenir à l'époque qui nous retient aujourd'hui, la réaction anti-bouddhique qui couvait de longue date fut d'une singulière efficacité, puisqu'elle mena à ce que mon confrère et ami Alain de Grappard n'hésita pas à qualifier de « révolution culturelle japonaise ». La vague de fond du mouvement dit « abolir le Bouddha », détruire Shakyamuni, qui sévit environ de 1868 à 1873 et faillit bien mener à la relégation du bouddhisme aux marges de la société. L'un des résultats les plus durables en fut la séparation forcée d'avec le Shinto, un Shinto artificiellement purifié et arraché à sa séculaire symbiose avec la religion dorénavant stigmatisée comme étrangère. Nous ne pouvons nous y arrêter ici.
Marquons une courte pause, si vous le voulez bien, Jean-Noël Robert, et reprenons dans quelques instants la suite de notre discussion à propos des samouraïs.
Canal Académie.
Nous retrouvons Jean-Noël Robert sur le sujet des samouraïs.
Notre président Jean-François Jarige nous a décrit tout à l'heure comment le malheur du bouddhisme japonais a fait le bonheur du musée d'Émile Guimet et comment nombre d'œuvres d'art bouddhique japonaises, délaissées en leur lieu de naissance, ont été dispersées dans le monde occidental. Voyons comment il a su se rétablir et retrouver une légitimité. Le XIXe siècle vit, on le sait, la constitution en Europe des études bouddhiques fondées sur la rigueur qui s'était imposée à partir de la Renaissance dans la philologie gréco-latine. L'un des plus grands noms de cette Renaissance orientale, dont parla Raymond Schwab, fut certainement Eugène Burnouf, dont le livre encore le plus lu, sa traduction du Lotus de la Bonne Loi, parut en 1852, l'année même de sa mort. La philologie bouddhique, qui naquit tout armée de l'œuvre de Burnouf, était bien évidemment, si l'on se place dans la perspective de cette époque, indo-centrique. La maîtrise de la plupart des langues anciennes du bouddhisme indien, le sanskrit, le pali, les prakrites, ainsi que des grandes langues auxiliaires qui étaient le tibétain et le siamois, n'avait pour lui qu'un but, retrouver l'état le plus ancien du message du Bouddha auquel la tradition écrite permit d'accéder. Or, cet idéal de pureté philologique, en harmonie avec l'esprit scientiste qui venait à dominer l'Europe, n'était pas sans résonner profondément avec de très anciennes aspirations du bouddhisme japonais. Bien que l'étude y fût fondée sur la version chinoise des Écritures, on n'avait jamais perdu de vue que les textes originaux avaient été rédigés dans la langue brahmique, la langue de l'Inde, généralement tenue pour être le sanskrit. À la différence du bouddhisme chinois, celui de l'archipel avait scrupuleusement maintenu la connaissance de l'écriture brahmique, l'alphabet dit Siddham, venu en droite ligne de l'Inde et utilisé essentiellement pour son caractère symbolique et ésotérique. On avait conservé précieusement dans le canon bouddhique les quelques lexiques et glossaires sanskrit chinois rédigés en Inde et abondamment étudiés dans le Japon médiéval. Mieux encore, certains temples avaient préservé quelques manuscrits sanskrits de textes bouddhiques importants. Au long de siècles, il s'était toujours trouvé des moines japonais qui avaient rêvé de marcher sur les traces des grands pèlerins chinois, comme Fa Xian vers l'an 400 ou Xuanzang au 7e siècle, et traverser la Chine vers le lointain Occident pour y aller chercher la loi. Ces tentatives furent toutes malheureuses, mais la grande vague d'érudition de l'époque d'Edo avait aussi profité à ces études indiennes. Le moine Hongkō, Jiun Sanja, mort en 1804, avait rassemblé en un ouvrage gigantesque, comprenant 1000 livres, tout ce qu'il avait pu trouver dans les bibliothèques japonaises concernant la science brahmique. Son œuvre marquait le point ultime où l'érudition sanskritiste autochtone put parvenir sans un nouvel apport de l'étranger. Les penseurs nationalistes ou confucianistes de l'époque d'Edo ne se privaient pas de rappeler dans leur critique du bouddhisme que celui-ci avait d'abord été transmis en langue indienne. Les Japonais ne disposaient que de traductions chinoises, dont on pouvait raisonnablement mettre en doute la fidélité. Avec l'ouverture du Japon, les moines les plus érudits et les plus audacieux virent enfin se réaliser la possibilité d'aller chercher la loi à l'ouest. Mais il s'agissait cette fois d'aller beaucoup plus à l'ouest que l'Inde. Nul doute que si Burnouf était mort plus tard, c'est vers Paris que se seraient dirigés ces chercheurs du Dharma, d'un nouveau genre. Mais lorsque les milieux bouddhiques purent retrouver la stabilité après la tempête qu'ils venaient d'essuyer, le phare de l'indianisme n'était plus pour quelque temps Paris, mais Oxford, où le grand sanskritiste allemand Friedrich Max Müller, 1823-1900, élève de Bopp, Schelling et Burnouf, enseignait depuis 1847. C'est donc à Oxford que se rendirent en 1878 deux jeunes moines japonais de l'époque dite authentique de la Terre pure, Nanjō Bunyū, 1849-1927, et Kasahara Kenju, 1852-1883. Si le second mourut trop tôt pour donner plus que de brefs textes qui laissaient entrevoir un esprit profondément religieux, le premier eut de longues années pour déployer ses capacités d'érudit et d'organisateur. Mais que venait chercher en Occident Nanjō Bunyū et tous ceux qui le suivirent? En étudiant la langue sanskrite, avec de plus sûres méthodes philologiques, ils réalisaient au moins deux buts. Ils revenaient au Japon riches d'une science nouvelle, qui leur conférait une nouvelle légitimité dans le monde scientifique qui se développait alors. Un sanskritisant était pour ainsi dire l'équivalent d'un ingénieur des chemins de fer, un personnage naguère inconnu dans l'ancienne société. En assumant pleinement le caractère étranger du bouddhisme et en concentrant leurs efforts sur les textes des origines, ils échappaient aux critiques de secondarité qu'on avait infligées au clergé japonais. Cette nouvelle discipline avait l'attrait de la modernité. Il s'agissait véritablement de la découverte d'un nouveau bouddhisme. Ainsi, ce voyage en Occident menait à la fois à la constitution des études bouddhiques comme discipline académique de plein droit et un renouveau de la religion bouddhique au Japon. Mais cette translation du savoir fut aussi, pour ces moines japonais, l'occasion de découvrir qu'ils possédaient eux-mêmes un trésor qu'il ne fallait pas perdre. En effet, le grand savant indianiste qui était Max Müller, et avant lui son maître Eugène Burnouf, ignorait la langue chinoise. Le sinologue français Stanislas Julien, dans des travaux publiés dans les années 50 et 60 du XIXe siècle, avait déjà attiré l'attention, après Abel Rémusat, sur l'importance des sources chinoises pour l'étude du bouddhisme. Les religieux japonais de l'époque Meiji étaient les héritiers directs de la scolastique japonaise traditionnelle, qui avait mené aussi loin qu'il était possible, selon les méthodes anciennes, l'étude du canon bouddhique chinois. Ce canon renfermait littéralement des centaines de sutras, dont on avait perdu la trace dans les langues de l'Inde. Si nous nous en tenons au texte sanskrit du grand véhicule, les 9 sutras conservés au Népal et transmis à Londres puis à Paris étaient une goutte dans l'océan des Écritures. Certes, il y avait le canon tibétain, dont le Hongrois Choma de Kerus avait tressé le catalogue dès 1836, mais les versions chinoises étaient incomparablement plus anciennes. Nanjo Bunyu, de façon exemplaire, comprit tout le parti qu'il pouvait tirer de la double formation qu'il avait acquise. Il publia en 1883, à Oxford, son Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka, ouvrage bien dépassé aujourd'hui, mais qui resta longtemps la référence de tous les spécialistes des études bouddhiques. Il mettait à la disposition des philologues occidentaux les ressources du canon chinois et permettait aux érudits japonais de se resituer dans l'ensemble de la tradition bouddhique. En 1890, c'est un jeune laïc mais fervent bouddhiste, Takakusu Junjiro, 1866-1945, qui arrive auprès de Max Müller à Oxford. Il étudie plusieurs années auprès du maître, rentre au Japon en 1897 et devient la figure de proue des études bouddhiques universitaires. Il fut, avec Watanabe Kaigyoku et Ono Genmyo, l'âme de la grande entreprise d'érudition que fut le canon bouddhique révisé de l'ère Taisho, publié de 1924 à 1935, qui demeure encore l'instrument de travail fondamental de tous ceux qui s'occupent du bouddhisme extrême-oriental. Ainsi, l'ouverture du Japon permit de donner au bouddhisme japonais un visage qui demeure encore parfaitement singulier en Asie orientale. Rester fidèle à ses traditions sur le plan de la pratique et des lignées d'appartenance, il acquit une nouvelle légitimité en tant que discipline académique, alors même que les recherches étaient le plus souvent menées par ce que nous appellerions des membres du clergé. Le cursus des facultés d'études bouddhiques, qu'elles appartiennent à des universités confessionnelles ou laïques, insistait sur la triple formation en sanskrit, tibétain et chinois, menant à l'apparition d'une pléthore de spécialistes dont les activités bien coordonnées menèrent à quelques-uns des plus beaux résultats dans le domaine. Les possibilités inouïes offertes par ce monde bouddhique rénové n'échappèrent pas au grand Sylvain Lévy, 1863-1935. Pendant son séjour de 1927 et 1928 à la Maison franco-japonaise de Tokyo, qu'il avait œuvré à créer, il élabora avec Takakusu Junjiro, qu'il avait déjà rencontré à Paris, le vaste projet du Hobogirin, dictionnaire encyclopédique du bouddhisme d'après les sources chinoises et japonaises, qui entendait mettre à la disposition des indianistes et bouddhologues européens le trésor des textes du canon chinois. Je ne reviendrai pas ici sur l'histoire et l'avenir de ce vaste projet que j'ai déjà eu l'honneur d'évoquer ici même il y a 3 ans. Qu'il me soit simplement permis de dire en conclusion que les études bouddhiques japonaises, si elles ont considérablement changé dans les récentes années dans leurs orientations, continuent de maintenir un équilibre enviable entre les méthodes philologiques et historiques les plus rigoureuses et les approches plus sensibles aux nouvelles préoccupations de la recherche. Le japonais demeure sans conteste une langue de travail indispensable aux spécialistes du bouddhisme. Le français venait naguère immédiatement après lui, le précédait même parfois. De Burnouf à Max Müller, de Sylvain Lévy à Takakusu Junjiro, l'étude du bouddhisme fut le terrain surprenant d'une profonde coopération intellectuelle entre le Japon et l'Europe, et plus étroitement avec la France. Nous essayerons de faire en sorte qu'il le demeure.
Vous venez d'entendre la communication de Jean-Noël Robert de l'École pratique des hautes études et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres intitulée « Les études bouddhiques, un axe durable de la coopération franco-japonaise ». Cette communication est extraite de la journée d'études organisée par l'Académie des inscriptions et belles-lettres le 23 mai 2008 à l'occasion du 150e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et le Japon.